Cap à Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap à Cap avec
Jean-François Lafont.
Le monde du travail est malade, dans toutes les activités, les cadences s'accélèrent, les marges de manœuvre des salariés se réduisent, les risques s'accroissent, de nouveaux modes de surveillance apparaissent. Bref, contrairement à ce que les pays développés ont pu croire il y a quelques années, ni la technologie, ni l'évolution de nos sociétés, ni les progrès de la robotique ne font que le travail soit un mal indolore pour beaucoup de nos concitoyens. Et donc pour eux, il est devenu synonyme de pénibilité physique et de pression morale intolérable. Aller travailler la boule au ventre ou savoir qu'on est en train d'endommager son corps durablement, parfois de façon irréversible, et ce souvent au détriment de la vie de famille, font du quotidien d'un trop grand nombre de travailleurs un enfer sur terre. Et cela ne donne pas l'impression d'aller vers des lendemains qui chantent. Selon un professeur du CNAM, 24% des travailleurs en France déclarent être en permanence soumis à des cadences élevées. Et sans pouvoir avoir son mot à dire sur l'organisation du travail, pression temporelle forte et autonomie réduite aboutissent à une conjonction particulièrement délétère pour la santé des salariés. Certes, ce n'était pas mieux dans le passé, qu'il n'y a pas lieu d'idéaliser, mais à la pénibilité toujours présente s'ajoute à présent une pression mentale en croissance permanente depuis 30 ans. Et bien évidemment, les multinationales telles Free ou Amazon, mais aussi des sociétés comme Lidl et bien d'autres d'ailleurs, sont accusés par beaucoup d'instaurer de mauvaises conditions de travail. L'intensification de ce travail est l'un des phénomènes majeurs de ces 30 dernières années, avec toujours le même credo, toujours plus, toujours plus vite. Si ce n'est pas la cadence de la machine, ce sont les normes de production qui commandent, ou bien encore la demande du client qui impose des délais de jour en jour plus courts. N'oublions pas que nous sommes dans une société de l'immédiateté où les entreprises travaillent à flux dits tendus et dont la principale variable d'ajustement se trouve dans l'effectif salarial. Le maître mot est aujourd'hui productivité, déesse d'une société de consommation effrénée et d'obsolescence programmée. Allez passer un après-midi dans un conseil de prud'homme et vous verrez combien les pratiques déviantes en matière de droit du travail sont répandues. Vous constaterez que la loi est souvent bafouée et que l'on chasse avec beaucoup d'opiniâtreté les représentants du personnel ou ceux qui ne tiennent pas les cadences, quand ce ne sont pas les malades qui sont évacués sans ménagement, même si la maladie trouve son origine dans le métier ou le poste du travail. Une publication du ministère du Travail note, et je la cite, « Depuis une trentaine d'années, la proportion de salariés dont le rythme de travail est déterminé simultanément par au moins trois contraintes a beaucoup augmenté, passant de 6% en 1984 à 35% en 2013. François Desrieaux, qui est le rédacteur en chef de la revue Santé et Travail, écrit que sous l'effet de ces conditions maltraitantes pour le système ostéo-articulaire, le cœur ou la santé mentale, les licenciements pour inaptitude médicale ont explosé ces dernières années. Gageons que ce ne sont pas les ordonnances réformant un code du travail, certes obsolète aujourd'hui sur bien des points, qui vont améliorer les choses. Durcissement des conditions de travail, amoindrissement de la résistance collective, limitation de l'indemnisation des préjudices, disparition de l'effet dissuasif de la possible sanction des tribunaux. Bref, il y a encore du chemin à faire pour parvenir à ce que le travail libère l'homme et ne soit plus un univers impitoyable. Cela étant dit, nous recevons ce jour sur Occitanie Première un Occitan convaincu, un homme qui œuvre quotidiennement, inlassablement, pour promouvoir la culture et les valeurs de notre région et qui le fait sans sectarisme aucun, mais avec compétence et humanisme. Bonjour Jean-François Lafont.
Bonjour.
Alors, cet Occitan, pourquoi cet occitanisme aujourd'hui dans un monde qui est globalisé, où on veut supprimer un peu toutes les particularités, uniformiser, unifier, abattre les murs. Alors, on a vu que les murs reviennent quand même au goût du jour. Pourquoi aujourd'hui en faire autant pour l'Occitanie ?
Raison de plus. Puisqu'effectivement, plus on est mondialisé, plus on est tous uniformisés, plus on mangera la même malbouffe et plus on boira la même soda trop sucrée, plus on aura envie, je crois, de retrouver de la pertinence, retrouver ces valeurs. Ces valeurs qui sont fondées, pour la plupart d'entre nous, sur l'appartenance à un territoire. Et sur ce territoire, il y a, au-delà de la langue française, il y a souvent des réminiscences de la langue occitane qui étaient très prégnantes encore au début du siècle, du XXe siècle. Et puis au-delà de la langue elle-même, il y a des valeurs, il y a un savoir-vivre, il y a un bias de biure. Et on peut même dire qu'il y a une sorte de civilisation qui nous rapproche peut-être plus à Toulouse de Santiago du Chili ou de Lima ou de Madrid ou Barcelone plutôt que de Copenhague ou de Berlin. Donc on se sent latin, on se sent du sud, on se sent occitan. Alors bien sûr, on peut tous se sentir différents, mais tout cela nous ramène à l'existence d'une véritable civilisation que je défends, qui pour moi est la civilisation occitane.
On dit beaucoup qu'il y a la population de Toulouse se renouvelle, donc il y a 10-15 000 personnes qui arrivent, donc ça veut dire que ce ne sont pas des gens d'ici, ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas forcément des latins, qui ne connaissent pas notre histoire et nos valeurs, parce que je dis nos, puisque je m'englobe dans cette Occitanie. Est-ce que ce n'est pas du romantisme aujourd'hui que vous nous faites là ?
Je crois qu'au contraire, parce que quand on arrive dans un pays, quand on est émigré, donc on arrive de Bretagne, du Nord, de Hollande, d'Allemagne ou d'Espagne, on arrive à s'installer à Toulouse, que ce soit par Airbus ou par d'autres moyens, eh bien je crois que le premier réflexe, c'est justement de toucher du doigt la réalité sociologique de l'endroit où on veut vivre. Et on se rend compte, par exemple, qu'il y a pas mal de gens qui mettent leurs enfants dans les calendrettes à Toulouse, les écoles en immersion occitane, dont les parents travaillent chez Airbus, qui sont des Allemands, qui sont des Anglais, qui sont des Belges, etc., et qui veulent toucher du doigt et faire que leur séjour de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans à Toulouse soit le plus agréable possible, et surtout que leurs enfants en retirent une expérience de vie qui n'est pas simplement une expérience de bilinguisme avec le français, puisque le français, de toute façon, il est partout, et donc, de toute manière, les enfants parleront français, mais en plus acquérir une richesse supplémentaire, qui est l'usage de la langue occitane, qui va leur ouvrir tout un tas d'horizons.
Vous citiez les Hollandais, bon, pourquoi pas les Hollandais, mais vous croyez qu'il y a beaucoup d'enfants hollandais qui sont dans les calendrettes. Alors les calendrettes, on a reçu le président ici, le co-président des calendrettes, Emmanuel
Questel,
voilà, on a fait une émission sur ces fameuses calendrettes. Alors rappelez peut-être pour les auditeurs qui n'ont pas suivi, qu'est-ce que c'est qu'une calendrette aujourd'hui ?
Alors, une calendrette est une école associative, laïque, gratuite, et de secteur privé, donc qui est une école en immersion, c'est-à-dire que les enfants, quand ils rentrent à la calendrette, vont faire toute leur scolarité en occitan. Bien entendu, on parle également le français, puisqu'on donne des cours de français en français, mais par exemple les mathématiques, l'histoire, la géographie, tout est étudié en langue occitane. Le but à atteindre est tout simple, c'est qu'à 10 ans, l'enfant est parfaitement bilingue. Il est bilingue occitan-français, mais ça va lui ouvrir les possibilités d'être trilingue, quadrilingue, puisqu'on sait aujourd'hui que le bilinguisme facilite l'apprentissage de toutes les autres langues.
Non, on ne va pas nous dire que finalement il vaut mieux parler aujourd'hui chinois, japonais ou américain, anglais que l'occitan. À quoi ça sert de parler occitan ?
Voilà, et pourquoi pas l'occitan ? C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau humain réagit au bilinguisme, au multilinguisme, quelle que soit la langue. C'est-à-dire que si vous êtes monolingue, comme la majorité des Français, on est malheureusement monolingue jusqu'à 11 ans. Et à 11 ans, on essaye de faire
fois,
un peu d'anglais.
Et des fois après.
Et voilà. Et c'est trop tard, parce qu'on essaye de faire de l'anglais à 11 ans, et c'est foutu. Donc, quand on est monolingue, ça s'est prouvé scientifiquement, mais votre globe frontal, et il y a l'espace du monolinguisme qui prend la place, et c'est foutu pour apprendre une autre langue. Quand on est multilingue, qu'on soit bilingue, trilingue, quadrilingue, eh bien, c'est le plurilinguisme qui prend la place, et il paraît, moi, je ne suis pas l'exemple, parce que je n'en suis pas capable. Il paraît que le cerveau humain n'a pas de limite et qu'on peut apprendre 25 langues, 30 langues, 50 langues. Il n'y a pas de difficulté à condition de savoir se servir de son organe. Mais comme vous le savez, le cerveau humain, nous ne l'utilisons qu'à peu près à 5% de ses capacités.
Il y en a qui ne savent même pas qu'ils en ont un.
Exactement. Donc aujourd'hui, tout le monde prouve que le bilinguisme est favorable à une ouverture d'esprit. Alors, quand on est bilingue, par exemple, on est meilleur en mathématiques, on est meilleur en philosophie, on est meilleur en français. Voilà, quelle que soit la langue. Alors ici, nous avons la chance d'avoir une langue disponible, qui est la langue vivante occitane, la langue d'ici.
Mais combien de gens qui parlent occitan dans votre région ?
Alors nous avons une enquête très précise, très sérieuse, qui a été faite en 2011 par le Conseil régional de Midi-Pyrénées, qui a fait une étude socio-ethno-linguistique sur 5000 sondés, ce qui est quand même conséquent, sur toute la région Midi-Pyrénées. Donc nous savons aujourd'hui que un Midi-Pyrénéen sur deux est en capacité de dire quelques mots d'occitan. Dans les aires urbaines comme Toulouse, 14% de la population est capable de parler occitan. C'est pas beaucoup, mais quand on ramène la population à 1 million d'habitants sur l'agglomération, ça fait quand même pas mal de monde. Bon, sur l'aire occitane en général, c'est-à-dire les 32 départements de France, un petit morceau d'Italie, un petit morceau d'Espagne, on parle occitan, il y aurait 6 millions de locuteurs. Ce qui fait de l'occitan la langue non officielle, la langue régionale entre guillemets, la plus parlée d'Europe.
C'est quand même un beau résultat.
Bien plus parlé que le catalan, bien plus parlé que le frison, bien plus parlé que le flamand ou d'autres langues qui ne sont pas reconnues comme officielles. Mais parce que l'air est immense, et effectivement, donc nous avons 6 millions de personnes qui sont en capacité de le parler. Après, ce qui est embêtant, c'est que nous n'avons pas de médias officiels, c'est-à-dire la télévision publique, la radio publique n'utilisent pas l'occitan, nos journaux écrits n'utilisent pas l'occitan.
Donc Occitanie Première va essayer de...
Il est bien heureux qu'Occitanie Première soit là pour y remédier avec d'autres médias.
On a du travail, mais on va peut-être y arriver.
Il faut s'y mettre. Hein.
Il faut s'y mettre et il faut trouver des gens qui aient envie de faire partager cette langue à la radio.
Parce qu'après, ce que nous ne nions pas non plus, c'est que l'occitan a été placé par l'ONU sur la liste des langues en voie de disparition ou en danger de disparition.
Donc nous sommes une réserve d'Indiens. On en parlera des Indiens tout à l'heure. Mais...
C'est-à-dire qu'il faut que, pour qu'une langue soit sauvée aujourd'hui, il faut que 30% d'une classe d'âge la parle. C'est très simple. Donc aujourd'hui, en Occitanie, il n'y a pas 30%. Mais je vous l'ai dit, à Toulouse, oui, par exemple, il y a 14%. Donc on en est loin. Et je parle d'une classe d'âge. Donc il faut récupérer ça, et ça se récupère par l'enseignement, tout simplement. Donc aujourd'hui, on a un exemple tout à fait intéressant, qui est le Pays basque français. Pays basque français, ils ont créé un institut de la langue basque, l'office de la langue basque, ils ont mis les moyens, ils ont mis des écoles et des ikastolas, l'équivalent des calendrettes, mais en basque. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que 30% des jeunes basques du Pays basque français parlent basque. Ce qui veut dire que le basque va pouvoir sortir de la liste des langues en voie de disparition. Nous l'avons fait pour le basque, avec les moyens de la République française. Le corse est sur la même voie. Il n'y a pas de raison que nous n'arrivions pas non plus pour l'occitan. Il fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité.
Rappelons que les calendrettes, ce n'est pas uniquement les écoles, ce sont aussi des collèges.
Oui, et bientôt des lycées.
Et des lycées bientôt, oui. Donc il y a quand même un développement.
Donc nous avons les maternelles, les primaires, les collèges, le lycée qui va ouvrir, et puis l'université, bien sûr, qui existe déjà depuis très longtemps, où on apprend l'occitan. Pas simplement en Occitanie, il y a 89 universités dans le monde où on apprend l'occitan, y compris au Japon, aux États-Unis.
On apprend l'occitan au Japon.
Et oui, parce que si vous ne connaissez pas l'occitan, vous ne pouvez pas lire les troubadours. Donc vous ne pouvez pas lire la première littérature de l'Occident, qui est apparue au 9e siècle après Jésus-Christ. Donc vous ne pouvez pas l'étudier si vous ne connaissez pas l'occitan. C'est comme ça. C'est pas un tiré d'une fierté, mais c'est une réalité.
Alors justement, l'histoire, l'Occitanie, ça démarre quand ?
L'Occitanie commence quand l'Empire des Carolingiens se fracture et que les Aquitains d'un côté se dissocient de l'Empire des Francs. Donc à ce moment-là, vous avez au nord de l'Europe, à Aix-la-Chapelle, les Francs avec le fameux Charles Martel. Vous avez dans le sud le duc d'Aquitaine, Hudon, qui tenait Toulouse et qui parlait aquitain. Et aquitain, c'était en fait une forme de bas latin, une langue directement issue du latin, qui est devenue de l'occitan à partir du 9e, 10e siècle. Donc là, vous avez une sorte de féodalité qui s'est organisée autour de cette civilisation, qui est une civilisation très ouverte, où la convivencia était très en pointe, c'est-à-dire l'art de vivre ensemble. On se côtoyait beaucoup avec les musulmans, avec les juifs, après les cathares qui sont arrivés. Puis là, vous connaissez l'histoire, la croisade contre les albigeois et conquête du sud par les barons du nord, l'infâme Simon de Montfort, qui est venu effectivement mettre un terme à notre civilisation et nous imposer petit à petit l'usage du français.
On a mis un terme aussi, grâce à quelques bonnes dames qui ont envoyé une pierre sur sa tête, on a mis un terme.
Oui, on s'est un peu vengé. Oui. Le résultat des courses, c'est qu'on parle quand même tous français. Et puis après, l'édit de Villers-Cotterêts nous a imposé l'usage de la langue française. Et l'Académie française ne nous a pas arrangé. Donc aujourd'hui, après un temps où il était inconcevable de sauver les langues régionales parce qu'on pensait que ça allait à l'encontre de l'unité de la République française, aujourd'hui, les choses ont changé. Et on comprend bien que l'occitan n'est pas une menace pour le français. Bien au contraire.
Quand même, en même temps, les fameux hussards noirs de la République
l'interdisaient,
vous tapez sur les doigts avec la règle un peu carrée, là.
Tout à fait. Mes propres parents ont été soumis à ce régime, c'est-à-dire que l'enfant rentrait à l'école le matin, on lui donnait le signal, qui était une bobine de bois, et l'enfant devait écouter dans la classe ou dans la cour de récréation si un autre enfant parlait l'occitan. S'il trouvait un autre enfant, il lui filait la bobine. Et celui qui avait la bobine le soir, prenait ça en ligne. Donc vous faites ça pendant 3 mois, ça marche.
C'est dissuasif.
C'est tout à fait dissuasif. Donc avec 100 ans pratiquement de cette activité-là, on a mis l'occitan en piètre posture. Et pas que l'occitan, le corse, le breton, le basque, l'alsacien, le flamand. Imaginez l'Alsace. L'alsacien qui est une langue très très proche de l'allemand. Si on n'avait pas tué l'alsacien, imaginez le potentiel qu'auraient ces gens-là qui seraient bilingues, français, allemand. Eh bien non, il a fallu, pour l'unité de la République, mettre un terme à tout cela. Et l'Occitan, c'est pareil.
L'Occitan, vous n'êtes pas très jacobin, vous. Hein.
Je suis anti-jacobin, je suis anti-centralisation. Je suis pour que la France retrouve une république d'adhésion, une république un peu plus sexy, dans laquelle on respecterait Tout simplement, l'identité de chacun. Alors, moi, je ne renie pas, attention, soyons bien clairs, je ne renie pas l'identité nationale française. Je suis fier d'être français. Mes deux grands-pères ont été blessés à Verdun. D'ailleurs, s'ils n'avaient pas été blessés, ils auraient été tués. Donc, je ne serais pas là. Donc, la langue française est une langue merveilleuse qui fait partie aussi de mon métier comme du vôtre. Et donc, je ne la renie absolument pas. Mais je dis simplement que le combat pour le français aujourd'hui, dans la mondialisation, pour sauvegarder le français, est exactement le même combat que l'Occitan. Si on laisse partir l'Occitan ou le Basque ou le Corse, le français suivra et prendra exactement le même chemin. Parce qu'aujourd'hui, le français est en perte de vitesse partout. Et nous ne pouvons pas soutenir à l'UNESCO les grands discours depuis Chirac où on disait « l'exception culturelle française, il faut sauver le français ». Comment voulez-vous tenir cette posture si chez nous, nous ne sommes pas capables de faire respecter la diversité culturelle, la richesse de l'humanité qui fait que nous avons plusieurs langues sur la France. Alors tout ça, effectivement, est un travail de longue haleine. Mais politiquement, aujourd'hui, je crois qu'on est en train de le gagner. Il reste à le gagner dans le cœur des gens aussi, faire que les gens reviennent et apprennent, réapprennent leur langue.
Les limites géographiques de l'Occitanie, vous avez cité tout à l'heure l'Italie. Pourquoi l'Italie et jusqu'où ça va? Quelles régions en particulier?
Alors l'Occitan, c'était 5 régions, donc ça va jusqu'à Limoges, donc y compris le Limousin, l'Auvergne, Clermont-Ferrand. Ça descend jusqu'à Bordeaux, donc au-dessus de Bordeaux, la Charente, là, on n'est pas en Occitanie, c'était des terres plus ou moins anglaises longtemps.
Ils se reconnaissent comme Occitan.
Les Bordelais, Bordeaux est une ville occitane, bien sûr, jusqu'à Bayonne. Bayonne est coupée en deux, d'un côté il y a Bayonne le Basque et de l'autre côté Bayonne Occitane. Vous avez tout le sud, bien sûr, les Pyrénées, le Béarn, etc. Un petit morceau d'Espagne, de Catalogne, qui est le Val d'Aran, où officiellement, et là, de façon parfaitement officielle, on parle occitan et on chante le sécante comme hymne national. Après, toute la Provence, bien entendu, le Vivarais alpin, qui est au-dessus, qui touche à la Savoie. Et on rentre en Italie, où toutes les vallées des Alpes, les vallées du Val d'Aoste, etc., sont des vallées italiennes occitanes, où on parle occitan. Et là aussi, il y a une loi organique qui reconnaît l'occitan comme langue officielle, à tel point qu'à Turin, pour les Jeux olympiques d'hiver, par exemple, l'occitan était une langue officielle des Jeux olympiques. Donc vous avez un petit morceau d'Espagne, un petit morceau d'Italie, où là c'est reconnu, c'est officiel, et puis vous avez 33 départements français, où pour l'instant, ça n'existe pas.
Alors nous sommes en pointe sur l'Occitan, si je comprends bien ici, c'est nous qui défendons le plus la langue, les autres, il n'y a pas de calendrette par exemple.
Il y a des calendrettes un peu partout.
À Bordeaux, il n'y a pas de calendrette.
À Bordeaux non, mais il y en a pas mal en Béarn, il y en a un peu partout, il y en a à Agen.
Il y en a en Italie.
Il y en a pas en Italie, mais il y en a en Provence. Il y en a sur tout le territoire de l'Occitanie, c'est un peu éparpillé. Il y en a dans le Périgord, à Périgueux, il y en a à Limoges. Donc les calendrettes sont assez bien représentatives du territoire. La seule chose, c'est qu'ensuite, comme l'Occitan, comme toutes les langues régionales, si vous voulez, n'ont pas de statut légal, vous ne pouvez pas faire obligation à un élu ou à un fonctionnaire de faire quelque chose pour défendre quelque chose qui n'a pas de statut légal. Donc aujourd'hui, nous avons réussi à faire mettre les langues régionales dans la Constitution, article 78.1, qui dit « les langues régionales font partie du patrimoine de la France ». C'est déjà pas mal. Bon, on est déjà patrimonial. Mais même sur ce patrimoine-là, l'État ne fait rien. L'État, quand il a un patrimoine, un musée, un château, il l'entretient. Là, il ne fait rien. Alors, de quoi dépendons-nous, puisqu'on n'a pas de statut légal? Nous dépendons du bon vouloir, de la sympathie d'un élu ou d'un fonctionnaire. Alors, à Toulouse, il se trouve que depuis de nombreuses années, depuis 20 ans, on a bâti Convergence Occitane, on a fait des choses pour se faire connaître et puis faire pression aussi, devenir un groupe de pression. Il faut dire les choses comme elles sont. Et nous avons gagné, ce qui fait qu'à Toulouse, nous avons des élus qui, depuis 20 ans, nous suivent, nous accueillent, nous accompagnent et financent nos actions. Mais si ça venait à changer, le maire est élu dans 3 ans et change d'opinion sur l'Occitan, tout s'arrête. C'est-à-dire que la maison d'Occitanie peut devenir une maison d'autre chose. Donc ça, c'est terrible, parce que comme il n'y a pas de statut légal, on est soumis à ce bon vouloir. Et puis, même si vous avez le bon vouloir d'un élu, vous pouvez avoir un fonctionnaire qui va renacler à mettre en pratique la décision des élus, ou du conseil municipal, ou du conseil départemental. Et donc, on se trouve en butte souvent à des difficultés. On nous met des pots de banane un peu partout, parce que certains fonctionnaires aussi sont un peu plus jacobins que d'autres et ne voient pas ça d'un bon œil. Donc, nous demandons et nous exigeons, et nous nous battons pour cela, d'avoir un statut légal, un encadrement légal de la loi qui fera obligation aux élus dans les territoires où la langue occitane est parlée de respecter un certain nombre de points sur l'enseignement, sur la signalétique, sur le développement des associations, etc. Même quitte à mettre des quotas, mais en tout cas, il faut en venir à une politique voulue sur certains territoires. Alors après, il y a des régions où c'est moins facile que d'autres, et nous, il se trouve que notre région, elle a pris un nom qui nous va très bien, qui est Occitanie. Donc si on a une région qui s'appelle...
Une chance, on aurait pu s'appeler la France du Sud, comme notre
s'appelle
la France du Nord.
Oui, mais ça faisait partie du challenge. C'est-à-dire que dans les noms qui étaient prévus, il y avait Sud de France, il y avait Sud, il y avait Midi, il y avait Pyrénées, Pyrénées-Méditerranée, Heureusement, très heureusement, les gens ont voté. Moi, on ne peut que saluer l'action du conseil régional qui a souhaité faire une consultation populaire et qui a ensuite suivi le résultat de la consultation. Donc, pour une fois, c'était démocratique. Bravo. Et donc, l'Occitanie est sortie en premier et l'Occitanie a été respectée.
Ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Là, on bat un peu les Catalans.
Les Catalans, ils n'ont pas trop compris la démarche. Mais dans la mesure où vous faites une démarche démocratique, vous demandez aux gens de voter. Comme les Catalans ne représentent qu'un demi-département, enfin, disons, trois quarts de département, bien entendu qu'ils ont plié sous le nombre. Ils ne les représentaient pas. Voilà. Et c'est peut-être dommage qu'on n'ait pas réussi à trouver dans le nom de la région une façon de rappeler la catalanité de la région. Moi, par exemple, j'étais favorable à Occitanie-Catalogne, Occitanie-Pays catalan. Je faisais moi-même partie du comité du nom. Donc j'ai soutenu ces propositions-là, qui n'ont pas été retenues, parce que les gens, en majorité, sur les 12 départements et demi, ils ont préféré Occitanie. Bon, c'est un choix démocratique. À partir de là, il faut l'appliquer. Mais quand on a une région qui s'appelle Occitanie, forcément, les gens qui vivent dans cette région sont des Occitans. Et s'ils sont Occitans, il faut qu'ils récupèrent leur culture, il faut qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont, ouverts sur le monde, mais fiers de ce qu'ils sont.
Justement, cette Occitanie, elle s'appuie sur une histoire, elle s'appuie sur une civilisation, sur des valeurs. Oui. Vous avez cité tout à l'heure la convivencia, vous allez nous redire ce que c'est, il y a la parage aussi.
Parage et convivencia. Si vous voulez, cette Occitanie, quand elle a été son âge d'or, quand je vous ai parlé des troubadours, c'est le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire à partir du Xe siècle jusqu'au XIIIe siècle, c'était l'âge d'or de la liberté occitane, où effectivement les liens vassaliques avec les rois de France étaient tellement distendus qu'on se sentait un peu chez nous, on parlait une langue qui était l'occitan, qui était différente du français, et on appliquait ces valeurs qui étaient portées par la langue et soutenues par un mouvement littéraire qui est flamboyant, qui est fulgurant, qui est le mouvement des troubadours, qui est étudié, comme je vous l'ai dit, dans le monde entier. Puisque c'est la première fois, après le chaos du Moyen-Âge, après l'effondrement de l'Empire romain, qu'une littérature apparaît, une des plus belles littératures au monde, avec une poésie extraordinaire. Et cette poésie, donc, transmet un certain nombre de valeurs. Ces valeurs, déjà, il y avait par exemple la place de la femme, l'amour courtois, les cours d'amour, tout cela, vous avez entendu parler. Mais surtout, parage et convivencia. Donc, parage revient, par exemple, dans la chanson de la croisade, qui est une sorte d'épopée occitane de 10 000 vers en alexandrin qui raconte l'histoire de la croisade des Albigeois. Dans ce poème de 10 000 vers revient, je ne sais pas combien de fois, je crois 700 ou 800 fois, le mot parage. Parage qui veut dire péri, P-A-I-R, c'est-à-dire tous les hommes sont pères entre eux. Y compris le seigneur qui est père du simple valet, parce qu'il y avait quand même la féodalité, il y avait des grands seigneurs, il y avait des gens qui étaient quasiment des esclaves.
C'était un peu révolutionnaire à l'époque.
C'était très révolutionnaire. Ça voulait dire qu'on était père et ça voulait dire qu'on était noble d'âme. On considérait l'autre être humain comme son égal. Donc c'était très révolutionnaire. Et puis convivencia, c'est l'art de vivre ensemble, le plaisir de vivre ensemble avec des gens différents. Ça nous a coûté très très cher, parce que comme je vous l'ai dit, chez les seigneurs occitans, y compris le comte de Toulouse, on recevait les musulmans, on recevait les juifs. Puis quand les cathares sont arrivés au XIIe siècle avec l'influence des Bogomiles, de Bulgarie, etc., les cathares sont arrivés chez nous et puis ils ont prêché différemment, ils prêchaient en occitan, plutôt l'évangile selon saint Jean qu'autre chose. Donc ils étaient chrétiens, indéniablement, mais bien entendu, ils faisaient un peu ombrage à l'Église catholique de l'époque, qui, elle, se complaisait dans des pratiques un peu moins catholiques.
Et donc, ça n'a pas beaucoup changé.
Voilà, tout à fait. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les comtes de Toulouse, les seigneurs de Trincavel, de Carcassonne, etc., les ont accueillis comme les autres. Et donc cette convivencia a fait qu'on se parlait. Il y avait des disputations où les chrétiens catholiques discutaient avec les chrétiens cathares. Mais comment ça se fait? Pourquoi vous pensez pas comme moi? Vous parlez pas comme moi? Et on échangeait, on s'enrichissait de sa propre différence. Et ça, bien entendu, ça n'a pas plu ni au roi de France, encore moins au pape de l'époque qui s'appelait Innocent III, et qui en 1208 a déclaré la croisade, parce qu'on en avait marre de se faire tailler en pièces à Jérusalem. C'était bien plus simple depuis Paris.
La seule croisade prêchée sur le territoire, chrétien et français.
C'est-à-dire, on a dit, on ne va plus aller se faire plumer en Israël, on va venir conquérir l'Occitanie. Et donc, toutes les armées ont déboulé par la vallée du Rhône, par la National 7, comme on dit à Paris, oui. Et ils sont arrivés devant Béziers, où là, il y avait 25 000 personnes réfugiées derrière les murs de Béziers. Donc, comme ils ont réussi à rentrer dans la ville, le chef des croisés est venu voir les légats du pape, et en lui disant, qu'est-ce que vous faites, comment on fait pour reconnaître les cathares des chrétiens catholiques? Et vous connaissez la réponse.
Oui. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens.
Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Et donc, 25 000 morts. Ça a commencé comme ça, c'était en 1208, d'entrée, le décor était planté, et ça a duré 40 ans, cette joyeuseté. On estime qu'il y a eu plus d'un million de morts, donc c'était quand même un énorme génocide pendant 40 ans, où on s'était tripé joyeusement. Alors je ne dis pas que les Occitans n'ont pas pris leur part dans les massacres, c'était des guerres terribles.
C'est défendu.
On s'est défendu et on a perdu. Bon, alors on a quand même gagné contre Simon de Montfort, mais on a perdu à l'arrivée. Et c'est le fils de Simon de Montfort qui a fini par rendre le pays au roi de France. C'était tellement stupide de faire ça que son fils s'appelait Amaury de Montfort et qu'aujourd'hui encore, pour désigner quelqu'un d'un peu bête, bené ou stupide, on l'appelle Amaury. Donc vous allez, c'est surtout dans l'Aude, même du côté de Castelnau d'Henri, qu'une Amaury, ça veut dire que ce type-là est idiot. Vous rendez-vous compte, depuis le XIIe siècle, le XIIIe siècle, ce nom est resté pour signaler que la personne est idiote. Donc c'est quelque chose qui est encore prégnant. On vit encore sur cette histoire-là. Et puis ces braises-là ne sont pas éteintes. Donc cette convivencia dont je parlais, ces valeurs-là, convivencia par âge, je suis sûr qu'elles sont fondatrices de notre savoir-vivre, de la façon dont on se comporte à Toulouse ou dans l'Ariège ou dans l'Aude ou dans l'Aveyron. On a ça en nous. Et alors ben là, certains le disent, arrivent à le concevoir, et d'autres l'ont de façon innée. Mais je crois qu'il est important de se le réapproprier parce que ça fonde aussi des rapports ultra-modernes dans la société mondialisée et de plus en plus individualiste dans laquelle nous vivons. C'est ultra-moderne de récupérer ce parage, cette convivencia.
C'est moderne, mais on a un peu de travail encore pour que les gens comprennent tout l'intérêt.
Oui, c'est difficile. Alors, ça part à la fois du bas et du haut. C'est-à-dire qu'il faut convaincre les élus, il faut convaincre les intellectuels. Et puis, ça part du bas. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire du travail de terrain pour aller dans les écoles, dans les associations de quartier, pour dire qu'on est tous différents, mais qu'on peut s'enrichir mutuellement de nos différences. Et quand on se présente avec cette casquette-là, la casquette de la culture occitane, qui, vous savez, n'est pas une culture, qui est une culture qui a subi, qui n'est pas une culture omniprésente ni omnipotente, eh bien, on reçoit un accueil tout à fait différent et tout à fait intéressant.
On écoute un peu de musique, parce qu'il y a aussi de la musique occitane.
Bien sûr.
Deixa-me contar a história de um sambeguit per materna. Deixa-me contar a história de uma vontade de ferro, de uma juventude passada, de uma liberdade volguida, tal vez só e despertada, de uma liberdade perdida. Sim, se neres a mão segura, sabem só que vir e volver. Sim, se neres a mão segura. Segur i sestari l'azul, segur i sestari l'azul. Vaquer oro de los corbasses, pelos camins de Montfarier. Vaquer oro de los corbasses, gran flume de Grepuridier. Del papo la gran armada, da rei de França, o bandoliers. Del Dominique, los forcassis. Amen, amen, dies iré. Sense neres a mon segur, saben so que viure vol dir. Sense neres a mon segur, segur i s'estar i l'azul. Segur i s'estar i l'azul. Va qui l'oro de la desfaita i de llobre los lenyer. Va qui l'albo de la victòria me l'ambostro lui tu avei. Minoritats contra l'imperi, indiant de totes les colors, descolonitzarem la terra. Montsegur, te dreixos per tu. Sense neres a Montsegur, saben so que viure vol dir. Sense neres a Montsegur, segur i s'està i l'azul. Segur i s'està i l'azul. Sense neres a Montsegur, saben so que viure vol dir. Sense neres a Montsegur, segur i s'està i l'azul. Segur i s'està i l'azul. Sense neres a Montsegur, saben so que viure vol dir. Sense neres a Montsegur, segur i s'està i l'azul. Segur i s'està i l'azul.
Montsegur, Claude Marty, Alors Jean-François Lafont, qui est Claude Marty? Je rougis presque de poser la question, mais il faut bien quand même qu'on la pose.
Claude Marty, c'est notre Alan Stivell à nous, hein, c'est-à-dire c'est lui qui, dans les années 70, a relancé l'Occitan au niveau de la musique, de l'émergence de la musique folk, puisque nous étions à ce moment-là, dans les années 72, 73, 74, au moment du Larzac, par exemple, la revendication pour Boulemur Alpaïs, Gardarène ou Larzac, etc. Et Claude Marty a été un des premiers chanteurs à sortir des disques où, au lieu de chanter en espagnol, en français ou en anglais, eh bien, il s'est mis à chanter immédiatement en occitan, alors que Claude Marty d'origine est à moitié occitan, mais également espagnol et catalan. Il a compris, il a senti qu'il y avait là un créneau, il s'est mis à chanter en occitan et il a fait un succès énorme, puisqu'il a vendu des milliers et des milliers de disques. Et il a, avec cette chanson Montségur notamment, il a vraiment bougé les foules. Moi, j'ai découvert Marty en 74, j'avais 14 ans. Et à Montségur, il y avait, je ne sais pas, peut-être 10 000 personnes autour de lui. Et lui, avec ses cheveux longs et sa barbe, il chantait avec sa guitare. Et c'était, je vous dis, le même phénomène qu'Alan Stivell en Bretagne à ce moment-là. Donc vraiment quelqu'un qui a représenté tout un mouvement et qui a créé l'engouement, l'occitanisme moderne. Il a été aussi accompagné par Claude Marty, avec Claude Marty. Et on a la chance de l'avoir encore de nos jours avec nous. Et il chante toujours, donc c'est quelque chose pour nous d'essentiel.
On va aller faire quelques émissions avec lui, parce que c'est un peu... C'est un trésor occitan, on va
c'est
dire.
C'est un trésor occitan. Ouais. C'est la mémoire aussi de toute cette période où on est parti du mouvement des viticulteurs dans l'Aude, avec ça s'est terminé à Montredon de façon sanglante, la révolte des viticulteurs qui faisait suite à celle de 1907.
Oui, deux morts, un de chaque côté, un commandant de CRS, un viticulteur.
Bien sûr. Et à ce moment-là, les viticulteurs brandissaient le drapeau occitan. La croix occitane, qui est l'emblème de notre région et même de la ville de Toulouse, était à ce moment-là un symbole subversif, un symbole de rébellion et de révolte contre l'État français, contre le pouvoir établi, contre le pouvoir de l'argent, etc. Et Marty a accompagné tout cela avec ensuite l'épisode du Larzac, qui était encore plus emblématique. Et aujourd'hui, eh bien, écoutez, le drapeau occitan, il flotte au fronton du Conseil régional, il flotte au Capitole, et tant mieux.
Hein, donc, et il flotte un peu sur nos studios qui sont dans la maison d'Occitanie,
bien entendu,
que vous administrez à travers une association qui s'appelle...
Tout à fait.
Convergence
Occitane.
Voilà.
Convergence Occitane.
Alors qu'est-ce que c'est Convergence Occitane?
Alors si vous voulez, ce mouvement occitan, puisqu'on parlait de Marty, qui est parti des années 70, qui est monté jusqu'à son apogée dans les années, jusqu'à 81, il a eu son apogée en 81 quand Mitterrand était élu, parce que Mitterrand nous avait fait des promesses merveilleuses. Donc on allait reconnaître l'occitan, enfin, les langues régionales. Allez. Bon, et puis,
on n'est pas les seuls à qui il en a fait.
On n'est pas les seuls, et comme disait Pasqua, bien sûr, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et donc, patatrac, rien n'a été tenu ou très peu. Et donc le mouvement occitan était un peu en reflux à ce moment-là. Et dans les années 90, on était tous sur des actions plus ou moins symboliques avec des associations un petit peu éparpillées. Et à Toulouse, nous avons fait le constat, avec notamment des copains comme Claude Sicre, notamment, qu'on était tous éparpillés, que ce n'était pas bon du tout. Et qu'il s'agissait peut-être de se réunir et de réunir 40 associations. Il y avait déjà 40 associations qui travaillaient chacune dans leur cantou, comme on dit en occitan. Et donc nous sommes décidés en 98, donc il y a 20 ans, ça fait pile 20 ans, de créer une association qui s'appelle Convergence Occitane, qui regroupe ces 40 membres fondateurs. Et aujourd'hui, nous sommes 100. Il y a 100 associations, y compris Occitanie Première. Donc, ils sont chapeautés par Convergence Occitane, qui est une sorte de fédération, en quelque sorte, mais qui avait comme premier objectif d'obtenir un toit. Et ce toit, nous l'avons obtenu à partir de 2001, dans la campagne des municipales. Nous sommes investis dans la campagne municipale et nous avions fait promettre aux différents candidats que s'ils étaient élus, il y aurait une maison d'Occitanie. Et c'était Philippe Douste-Blazy à l'époque qui a tenu parole. Et nous avons, en 2008, pu rentrer dans les lieux. Et depuis décembre 2006, nous avons la maison de l'Occitanie, qui est un lieu magnifique.
On dit rentrer dans les lieux, ce sont des lieux magnifiques. C'est un vieil hôtel.
C'est un hôtel particulier du 15e siècle. Ouais. 1480. La partie où nous sommes, là, c'est 1492.
Avec salle capitulaire, tour capitulaire.
Tour capitulaire de 27 mètres de haut, qui est en parfait état. Et c'était la demeure de M. Hugues de Boisson, qui était en 1492, qui a été élu capitoule, et qui exportait de la laine, et puis plus tard du pastel, et qui en même temps était manieur d'argent. Donc il a fait sa fortune comme ça. Et donc, élu capitoul, il a construit son hôtel particulier où nous sommes aujourd'hui. Donc, une belle maison. Et dans cette maison, aujourd'hui, regroupée 100 associations qui travaillent toutes, plus ou moins, de près ou de loin, autour de la langue et de la culture occitane.
Ils s'entendent bien, tous ces Occitans qui travaillent ici?
La définition d'un occitaniste, c'est qu'il ne s'entend pas avec les autres. Mais ça fait aussi partie de notre charme, en quelque sorte. Je crois que c'est un peu pareil en Corse, c'est un peu pareil au Pays Basque. Donc on est tous sur des postures empreintes d'ego, empreintes d'idéologie, souvent différentes, souvent même opposées.
Ça veut dire que le président de Convergence, pratiquement...
Il faut déployer des trésors de diplomatie et surtout de patience pour arriver à faire avancer tout le monde ensemble. Mais bon, il n'y a pas que les Occitans qui sont comme ça. Mais après, sur l'essentiel, quand même, quand il s'agit de se mettre d'accord sur une position essentielle pour la langue et la culture occitane, on arrive à travailler ensemble et à faire même de grandes choses. Donc on a fait la maison d'Occitanie, on s'est mis d'accord, on s'est battu pour le nom de la région, on y est arrivé. On a voulu que les rues de Toulouse soient bilingues, que toutes les plaques de rue soient à la fois en français et en occitan, avec la même graphie, la même importance, etc., pour signifier la même dignité des deux langues. On l'a obtenu, il suffit de se promener dans Toulouse pour le voir. Donc quand on fait les choses sérieusement et qu'on se met tous en ordre de bataille, on obtient des choses. Quand on est dissocié, quand on est opposé, quand on est chacun pour soi, on n'obtient rien, bien entendu.
L'Académie du Languedoc, dont vous faites partie, qu'est-ce que c'est ?
L'Académie du Languedoc, c'est une académie un petit peu de littéraire et qui travaille sur des projets qui aident la jeunesse à s'exprimer dans un cadre artistique ou scientifique ou littéraire. Et donc c'est une académie qui est un peu fondée sur le modèle de toutes les grandes académies que l'on peut retrouver dans les grandes villes de France et qui donc décerne des prix à des jeunes qui sont prometteurs. Alors soit en littérature, en poésie, mais ça peut être aussi en sculpture, ça peut être un architecte, ça peut être, pourquoi pas, un scientifique qui aurait... Donc c'est quelque chose de très intéressant parce qu'effectivement, ça permet aussi d'aider la jeunesse.
Si c'est de la littérature, c'est obligatoirement de la littérature écrite en occitan.
Absolument pas.
Non, ça peut être.
Il y a aussi l'Académie des Jeux Floraux, vous connaissez, qui était notre grande aînée, qui est l'académie la plus ancienne, l'académie littéraire la plus ancienne au monde. Puisqu'effectivement, elle a été créée en 1324 par sept troubadours, à l'époque 300 ou 400 ans avant l'Académie française. Et déjà, les sept troubadours étaient là pour maintenir la belle langue occitane et donner des prix à des poètes ou des écrivains en langue occitane. Ensuite, cette Académie des Jeux Floraux, après la Révolution française, est beaucoup passée aux Français. Et grâce à Frédéric Mistral, au XIXe siècle, elle est revenue à l'occitan. Donc aujourd'hui, vous avez des concours à la fois en français et en langue occitane. Ça symbolise bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas renier une langue pour l'autre. Les deux langues peuvent s'exprimer et les deux langues sont porteuses d'universalité et sont aussi dignes l'une que l'autre. C'est pour ça que vous avez des très très beaux ouvrages, de très beaux poèmes en occitan, également en langue française, qui sont primés par l'Académie des Jeux Floraux.
La Fondation Occitania, qu'est-ce que c'est ?
La Fondation Occitania, c'est mon association que j'ai créé en 1994.
Vous présidez ?
Que je préside toujours, voilà, qui a été fondée à Montségur, avec une déclaration que nous avons faite à Montségur. Et cette association, elle a pour objet de trouver le chemin qui devrait réunir économie et culture. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte, par exemple, si vous allez en Catalogne, bon, je ne parle pas des événements récents, mais on voit bien que la catalanité, le fait d'être catalan, est porté aussi par une certaine bourgeoisie, par le monde économique, par le milieu commercial et très dynamique de Barcelone, qui se revendique être catalan. Alors que chez nous, ce n'est pas du tout le cas. Vous allez à Toulouse, vous allez voir les chefs d'entreprise toulousains, vous allez à la chambre de commerce, vous allez un peu partout. C'est rare qu'on vous dise qu'on est d'abord occitan, on est français aussi, etc. Non, ça passe un peu à la trappe. Donc cette fondation, elle a pour objet vraiment de retrouver ce chemin-là. Et c'est une des associations qui a fondé Convergence Occitane en 1998. Donc c'est pour ça qu'elle est membre fondatrice également de Convergence Occitane. Puisque Convergence Occitane n'est qu'une association d'associations. Il n'y a pas de personne physique dans Convergence Occitane. Donc je ne suis moi président de Convergence Occitane que parce que je suis président de Fondation Occitania.
Dernièrement, ça remonte à, vous allez me le dire, je crois, 2 ans, dans la création de ce qu'on appelle pompeusement un think tank qui s'appelle Bolégadi.
Oui, c'est-à-dire fin 2016,
donc c'est un peu moins. Qu'est-ce que c'est que Bolégadi ? Alors, on a déjà reçu quand même son président ici,
il y a plusieurs mois,
Dominique Drouet, mais vous pouvez peut-être nous rafraîchir un peu la mémoire.
Bolégadi, c'est dans le droit chemin de ce que je viens de vous dire pour la Fondation Occitania. Mais au lieu d'être une association, c'est directement un think tank, c'est-à-dire un groupe de réflexion et d'études qui fait mettre en commun donc, des personnalités qui ont leurs propres idées sur le devenir de notre région et l'économie de notre région Occitanie. Et le but de ce think tank Boulegadis, c'est d'essayer justement de se servir de la langue occitane, des valeurs de l'Occitanie, convivence, séparage, etc., et de le mettre au service de l'économie régionale pour un développement de notre région. Ça, c'est très original, parce que d'abord, on est les seuls à le faire. Ça devrait être normalement l'objectif et l'objet de nos instances régionales. Ce n'est pas encore le cas. Alors, on va les convaincre de le faire. Et pour les convaincre de le faire, il faut d'abord qu'on ait de bonnes idées. Donc, on travaille...
Ils sont réceptifs à ça ou ils considèrent comme des emmerdeurs?
Non, je crois que dans la mesure où ils ont validé le fait que la région s'appelle Occitanie, ouais, ils sont un peu prisonniers de ce choix. On ne peut pas décemment être à la tête d'une région qui s'appelle Occitanie en reniant la langue occitane et en reniant les valeurs occitanes. Ça serait stupide, ça serait se tirer une balle dans le pied.
Mais sur Boulegadis, l'enjeu, c'est de trouver des idées, de les, ouais, développer, de trouver des projets. Il y a des projets, vous pourrez en parler si vous, ouais, le souhaitez, notamment au niveau du canal du Midi. Il y a, oui, des, oui, projets extrêmement intéressants. Comment le politique les reçoit, ces projets? Est-ce que finalement, c'est pas un peu une chaussure dans leur...
Un caillou dans la chaussure.
Un caillou dans la chaussure, oui.
Un politique, il faut le convaincre que l'idée qu'on lui donne est la sienne.
Oui, ça, c'est tout un art. Hein,
voilà. Parce que lui, il n'est pas tout à fait content de savoir que d'autres personnes ont des meilleures idées que les siennes.
Donc, oui, si tant est qu'il en ait, mais enfin, bon.
Voilà, donc je pense que dans l'Occitanie, nous avons des politiques très compétents. Et nous, notre idée, c'est de...
Ça, c'est bien, on sent le diplomate quand même, là.
Hein. Non, mais ils sont compétents parce qu'ils vont justement regarder, j'espère, d'un bon œil, les idées qu'on va leur soumettre. Après, nous, c'est un think tank, on n'est pas là pour faire les choses à leur place, on n'est pas élus. On n'a aucun pouvoir, on n'a strictement aucun carnet de chèques à notre disposition. Donc on n'est là que pour réfléchir, avoir les bonnes idées, et puis je pense qu'on réfléchit mieux quand on est plusieurs que quand on est seul. Et à partir de là, en mettant côte à côte des personnalités aux différentes facettes qui sont complémentaires, que ce soit dans le monde économique, littéraire, associatif, pourquoi pas politique même, eh bien on arrive à faire une synthèse d'un certain nombre de sujets, et on arrive à trouver des idées. Et à partir de là, ces idées, on va les soumettre aux politiques. Si le politique s'en empare, nous avons gagné. Et c'est aux politiques de faire. Après, nous, on peut accompagner, on peut les aider à concevoir, à réaliser, mais ce n'est pas nous qui ferons à leur place. C'est leur responsabilité. Et nous saurons ensuite juger l'arbre à ses fruits, c'est-à-dire que si on communique une bonne idée et que cette idée est adoptée, est acquise, eh bien on sera attentif à la suite qui sera donnée. Ce que nous voulons, nous, c'est le développement de notre région Occitanie, notre belle région Occitanie. Nous voulons qu'elle avance dans le bon sens, nous voulons qu'il s'y crée des emplois, nous voulons que les gens s'y sentent bien, s'y sentent heureux, puissent se déplacer facilement, avoir des infrastructures de bon niveau, et donc avoir une région qui... Je rappelle que l'Occitanie, c'est plus vaste que l'Autriche. On a un PIB qui n'est pas négligeable, et que nous avons une région qui a un développement qui est presque comparable à celui de la Chine, en termes de croissance.
Oui, c'est ce qu'était venu nous expliquer le directeur de la Banque de France.
Oui, Maxime Maury,
qui fait partie de Boulegadis aussi, et qui nous avait donné des chiffres assez incroyables.
Oui, c'est-à-dire plus de 6% de croissance par an en sortant Airbus. C'est-à-dire vous enlevez Airbus, et tout ce qui reste de l'Occitanie, sauf Airbus, ça fait 6% de croissance. Je dirais que Macron doit en rêver pour la France. Mais nous, en Occitanie, on le fait. Donc je ne dis pas que tout est rose. C'est vrai qu'en Occitanie, il y a aussi des régions...
Normalement, tout devrait être rose à Toulouse.
À Toulouse, oui, mais il y a des régions qui sont un peu plus à la traîne.
Donc, oui, si on va du côté de la Lozère, ou si on va
Lozère,
même...
L'Ariège, l'Aveyron, voilà, il y a des coins où...
Le Roussillon, c'est un peu difficile aussi. Perpignan est quand même un peu en déshérence.
Oui, un peu en déshérence, et ce sont des endroits où, en plus, on voit que le Front National s'implante plus qu'ailleurs, parce que tout ça est des relations de cause à effet. Donc il faut qu'on travaille là-dessus, qu'on fasse en sorte que ce magnifique développement, cette croissance et ce bel enthousiasme. On sent qu'il y a de l'enthousiasme dans l'Occitanie aujourd'hui, et que cet enthousiasme soit au service de tout le monde, pas simplement des deux métropoles, Montpellier et Toulouse, mais que ça rayonne sur un territoire, comme je l'ai dit, qui est plus vaste que l'Autriche. Donc on pourrait tout à fait être un pays qui serait donc tout à fait capable...
En Autriche, ils ont un peu du Front National aussi. Enfin, ils ont le leur.
Ils ont le leur.
Mais ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous, quand ils viennent de séparage.
On n'est pas tout à fait comparables.
Voilà, ce n'est pas tout à fait comparable. Moi, il y a une histoire que j'aimerais que vous me racontiez, parce qu'on en a parlé au micro, bien sûr. C'est l'histoire des Indiens.
Oui.
Alors, j'appelle ça l'histoire des Indiens, mais vous allez nous expliquer. On va recevoir des Indiens bientôt.
Oui, alors il se trouve que les Occitans, figurez-vous, ont des relations avec les Indiens assez anciennes. C'est vrai qu'on se considère un peu comme les Indiens nous-mêmes, hein, c'est-à-dire on a été envahis, on a été culturellement un petit peu écrasés, pas tant que les Indiens, heureusement, mais enfin, quelque part, d'ailleurs Claude Marty le dit dans sa chanson, hein, « Indians de toutes les couleurs, Indiens de toutes les couleurs », nous sommes un peu des Indiens aussi. Et il se trouve qu'au 19e siècle, il y a eu des Indiens qui sont venus de Missouri, de Saint-Louis plus exactement, et qui voulaient rencontrer le roi de France. Et en 1829, le chef, qui s'appelait Petit Chef, a pris le bateau avec 5 ou 6 de ses de ses compagnons. Hein. Et ils sont arrivés en France, amenés par un escroc, enfin, je ne rentre pas dans les détails. Ils ont été reçus en grande pompe par le roi de France. Ça a créé un engouement incroyable. On a vu arriver des Indiens emplumés en France, etc., en plein hiver. Ça a d'ailleurs créé un mouvement, une création au niveau des tissus, le tissu indien. Ça vient de là. C'est 1829. Mmh. Donc, créé sous Charles X. Ils sont reçus à la cour de Charles X, et puis on les jette au bout de 3 jours, et ils se retrouvent à la rue. Il y en a 3 qui meurent de faim, et il y en a 3 qui arrivent à se sauver, et qui arrivent à Montauban, en 1829, parce qu'ils se rappelaient que l'évêque, le nouvel évêque de Montauban, avait été évêque à Saint-Louis, aux États-Unis, et qui donc parlait anglais. Donc ils vont se réfugier chez cet évêque, qui voit arriver ces pauvres Indiens dépenaillés, en train de mourir de faim. Et l'évêque de Montauban, Dubourg, organise une collecte dans tout le diocèse du Tarn-et-Garonne, finit par récupérer suffisamment de fonds et renvoie ces 3 pauvres Indiens aux États-Unis. Et là, cette histoire est devenue une histoire qui se transmet de génération en génération, et c'est devenu une grande icône de leur histoire. Aujourd'hui, ces Indiens, ce sont des osages. Ils ont été déplacés en Oklahoma, dans une réserve. Et pour eux, l'évêque du Bourg, les Montalbanais, les Occitans, c'est resté quelque chose qui est tout à fait fondateur et tout à fait vivace. Bien sûr, chez nous, on l'a tout oublié. Il se trouve qu'un de mes grands amis, qui s'appelle Jean-Claude Drouillet, qui était professeur à Montauban, quand il a pris sa retraite, il est allé fouiller dans les archives, et il tombe dans les archives du diocèse à Montauban sur les documents de cet évêque Dubourg, et toute la comptabilité de toutes les cotisations qui avaient été faites dans le diocèse pour envoyer les Indiens chez eux. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc ? Il se passionne pour cette histoire. Il trouve un article dans Historia, qui pratiquement concomitamment rappelait cette aventure avec Charles X, etc. Et donc il prend un billet d'avion, il va à Oklahoma City, et il rencontre le gouverneur de l'Oklahoma, qui était lui-même descendant d'Indien. Et quand le gouverneur d'Oklahoma, notre ami Drouillet est arrivé avec un drapeau occitan, le premier présent qu'il a remis, pour vous dire que de suite la relation s'est posée en termes d'occitanité, eh bien le gouverneur d'Oklahoma a fait descendre la bannière étoilée au Capitole d'Oklahoma City, et a fait monter le drapeau occitan de Montauban au premier mât de la capitale de l'Oklahoma. Et à partir de là, des liens se sont tissés avec les Indiens des États-Unis, les Osages. Après, il y a eu les Sioux, les Navajos, les Cheyennes, etc. Et nous avons participé à tout un tas de manifestations. Il se trouve que moi, j'ai même rencontré d'autres Indiens, mais là au Canada, au Québec, qui sont des montagnais. Alors l'avantage, c'est qu'ils parlent français. Donc comme ils sont québécois, ils vivent sur le territoire du Québec. Mais ils sont Indiens, Algonquins, dans la nation des Algonquins. Et donc, nous avons décidé de les faire venir en mai 2018. Ils viendront commémorer un don de terre que nous leur avons fait le 21 mai 1998. Donc, avec mon association Fondation Occitania, nous les avions invités déjà, il y a 20 ans. Ils sont venus dans l'Ariège. Et chose que fait Oklahoma Occitania depuis toujours, c'est que par symbole, chaque fois que des Indiens viennent en Occitanie, on leur donne une terre. Alors vous allez me dire, ils ne vont pas venir cultiver des carottes en Occitanie. Mais c'est un symbole. Et c'est quoi ce symbole ? C'est qu'on a le sentiment de leur avoir tout volé. On leur a tout pris. Les Blancs ont tout pris aux Indiens. Et donc, quand ils viennent chez nous, on essaye de réparer comme on peut. On leur donne une terre. Et donc,
l'Ariège, c'est pas un peu vache de leur donner une terre à l'Ariège ?
Ben, il y a le rond-point d'entrée de Montauban. C'est une terre aux sages. Il y a un monument avec trois piliers en fer, jaune, vert et bleu. Je ne sais pas si vous voyez quand vous allez à Montauban.
Oui, mais je ne savais pas ce que c'était.
C'est le rond-point des Osages. Donc, ce rond-point est une terre indienne. Il y a dans le jardin public de Montauban, il y a une terre indienne. Et chez moi, donc, dans l'Ariège, parce que moi, je suis ariégeois, nul n'est parfait.
Oui, ça, j'allais vous le dire.
Voilà. Et donc, on a une parcelle de terre qui est un cercle, en plus, un Cromlech, un cercle celtique, donc assez intéressant, que nous avons donné en 98 aux Indiens algonquins du Canada. Et donc, ils vont venir le 1er mai 2018, 20 ans après, refaire une cérémonie d'ordre animiste, chamanique, sur le territoire d'Alzin, en Ariège, et reprendre possession symboliquement de leur terrain, de leur terre.
On sera présent, bien sûr.
Et bien entendu que vous serez présent. Et ça va nous
donner... On ramènera un peu de son, comme l'on dit en radio.
En même temps, on va faire une réunion de Boulegadis, par exemple. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire un think tank économique avec des Indiens qui viennent du Canada ? Eh bien, tout est dans le symbole. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit s'enraciner ou pas ? Est-ce qu'une entreprise, par exemple, doit s'enraciner sur un territoire ? Est-ce que le fait de s'enraciner sur un territoire et de se sentir autochtone de quelque part est-il une force ou une faiblesse ? Est-ce que justement, en s'enraciner chez nous nos pépites, nos start-up ou même nos grandes locomotives comme Airbus ou autres, est-ce que ce n'est pas un gage justement de pérennité et d'assurance pour les générations futures de se dire que ce que nous avons créé, ce tissu industriel remarquable, eh bien, ne va pas se diluer et va peut-être rester ici, non pas pour des raisons purement économiques, mais aussi pour des raisons historiques, culturelles, des raisons sociétales qui pèsent dans la balance économique beaucoup plus qu'on ne le croit. Des décisions fondamentales sont prises tous les jours dans le cadre économique sur des bases culturelles, sur des bases historiques, et peu de gens le savent. Et ça tient aux relations entre les gens, ça tient aux relations entre les hommes, ça tient à la civilisation dans laquelle nous sommes. Tout n'est pas que chiffres, tout n'est pas qu'euro, tout n'est pas que délocalisation sauvage. Il y a aussi des gens qui réfléchissent deux minutes.
C'est de l'humanisme, ça ?
C'est de l'humanisme, c'est en même temps une position tout à fait pensée sur l'avenir de notre région. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Est-ce que nous sommes condamnés à être la succursale des multinationales ? Être un territoire où il fait quand même bon vivre, mais on peut installer une entreprise et puis demain matin la faire partir en Pologne ou en Corée ? Ou est-ce que sur notre territoire, on aura les moyens de dire que nous avons des gens qui y vivent, un savoir-faire, un savoir-vivre, des valeurs, une qualité de vie qui fait que les entreprises vont rester, vont s'implanter et vont demeurer. Je veux dire que si un jour on doit faire une statue place du Capitole à un seul homme, ça sera à Tom Enders qu'il faudra la faire. Par exemple, je prends que cet exemple-là. Tom Enders qui a eu l'intuition de mettre le siège mondial d'Airbus à Toulouse. Alors que tout le monde voyait, mais attendez, mais c'est pas possible, il faut qu'il soit ou à Berlin ou à Paris. Que vient faire Toulouse dans cette histoire ? Mais c'est simplement à Toulouse qu'on fait les avions. C'est simplement que le type qui se lève le matin, qui met son bleu, le travail à 5h du matin, c'est un Toulousain. Con, comme ils disent.
Oui. Il y en a un peu aussi dans le Nord.
Il y en a un peu dans le Nord, mais voilà, le plus que notre savoir-faire, notre plus, ce qu'on amène en plus, c'est justement ce supplément d'âme qui fait que ce sont souvent des Toulousains qui ont fait les latécoères, qui ont fait les deux voitines. Ce sont des Toulousains qui ont aidé Mermoz à monter dans sa carlingue. Tout ça, ça fait une histoire, ça fait une culture, ça fait qu'une entreprise s'enracine ou pas. Et là, Airbus, ils se sont tellement enracinés qu'ils ont mis le siège ici. Donc c'est un exemple merveilleux. Mais il y a d'autres entreprises qui, pour l'instant, ne sont pas enracinées et qui peuvent très bien décider demain matin d'aller porter leurs valises là où on les accueillera.
Ça veut dire qu'il faut que l'entreprise soit citoyenne ?
Il faut qu'elle, bien sûr, citoyenne, et en même temps, il faut qu'elle ait les deux pieds sur la terre sacrée. C'est ce que disent les Indiens. Pieds nus sur la terre sacrée. C'est-à-dire que pour nous et pour eux, la terre ne nous appartient pas. Nous appartenons à la terre. Nous sommes des animaux un peu plus intelligents que les fourmis, et encore que sait-on des fourmis. Hein. Et donc nous avons la capacité de savoir que nous existons et d'avoir conscience que nous existons. Nous sommes sur une terre, nous l'employons, nous l'utilisons, nous multiplions sur cette terre et nous favorisons un déploiement économique. Si on n'a pas conscience de tout ça, on devient simplement des machines, on devient des ordinateurs ou des calculettes. Et à partir de là, on voit ce que ça peut donner dans le cadre de la mondialisation, avec des délocalisations éperdues, des entreprises qui ne prennent plus en compte l'humain. Tout à l'heure, vous, dans votre éditorial, vous parliez de la souffrance au travail. Ben, ça, c'est les conséquences de tout ça. Et vous avez d'autres patrons qui, eux, sont effectivement des humanistes, sont peut-être des patriarcales, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, mais qui vont avoir conscience que sur un territoire donné, on ne fait pas n'importe quoi. Et que si on a développé une entreprise, on est responsable aussi de ce qui s'y passe sur ce territoire, du fait qu'il y a des gens qui travaillent, mais il y a aussi des épouses, il y a aussi des enfants qui vont à l'école, il y a aussi des gens qui font des trajets, il y a des déplacements. Tout ça est fait un tout qu'on ne peut pas dissocier.
Cette passion d'Occitanie, ça vous est appris quand ? Ça vous est venu comment ?
Ça m'est venu d'abord parce que quand j'étais petit, mes grands-parents parlaient occitan, un peu en se cachant de moi, parce qu'il fallait que je réussisse, donc il fallait que je parle très bien français. Après, j'avais une grande chance d'avoir un oncle à Montségur qui était berger. Il s'appelait Paul Audabram et je passais tous mes week-ends et toutes mes vacances avec lui parce que j'étais passionné par la montagne et par les moutons. Et donc, je gardais les moutons avec lui. Et lui, il a eu l'intuition de ne me parler qu'en occitan. Donc, il m'a appris la langue. Et c'est en gardant les moutons, en août 74, que j'ai vu débouler Claude Marty, dont je vous parlais, qui chantait Montségur. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que tous ces milliers de gens qui viennent écouter ce type avec sa guitare ? Et là, j'ai compris. Et depuis ce moment-là, je n'ai jamais renié cette passion qui fait qu'effectivement, on peut se passionner, je suis persuadé, pour deux cultures. D'ailleurs, moi, je ne renie pas du tout, encore une fois, ma culture française. Ce que je demande instamment, c'est que l'État français veuille bien nous reconnaître le droit d'avoir une identité double, c'est-à-dire d'être fier et porteur de cette richesse, d'être à la fois français, complètement français, et aussi complètement occitan. Et les deux ne s'opposent pas, mais s'ajoutent. C'est ce qu'on demande et j'espère qu'on sera entendu parce qu'il en va quand même, je veux dire, de l'avenir, je pense, de notre hexagone.
Vous êtes très bon avocat de la cause occitane, mais vous êtes avocat aussi tout court, puisque c'est votre métier. Vous avez le temps de plaider, de voir des dossiers, des clients avec...
Oui, pour l'instant, je ne peux pas plaider encore en occitan, puisque la langue occitane ne le permet pas. Mais oui, bien sûr. Mais j'en connais d'autres qui font de la radio, qui écrivent des livres. Donc, on arrive à se partager, bien sûr. Quand on est passionné, les journées font plus de 24 heures, il n'y a pas de problème.
Les politiques, ils acceptent ce discours, ils s'impliquent sur l'Occitanie.
Certains, oui. À Toulouse, je crois que oui, parce qu'on a fait ce boulot depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on va les tanner, puis on ne les rate pas. C'est-à-dire qu'il y a des élections municipales, on est les seuls, pratiquement les seuls, à être capables de mettre tous les candidats alignés dans une salle du Sénéchal, pour ne pas la citer, où vous avez, à part le Front National, vous avez tout le monde qui est sur une tribune. Et puis,
ils le font parce qu'on les y contraint, parce qu'on les y pousse, parce qu'ils sentent aussi qu'il y a un réservoir de voix. Mais naturellement, oui. Est-ce qu'ils iraient de même?
Certains, oui.
Pas l'aiguillon.
Certains, oui. Vous avez déjà un type comme Jean-Michel Latte, par exemple, il est occitan, il prend ses cours d'occitan ici à Loustal. Bon, il n'a pas besoin de le pousser. D'autres, je suis persuadé que Georges Méric au département ou Jean-Luc Moudin à la mairie de Toulouse sont des gens qui sont foncièrement porteurs de la culture occitane sans aucune ombre, c'est certain. Et d'autres personnalités, après, qu'il faut convaincre, c'est un peu plus difficile. Vous avez un type comme Gérard Onesta qui fait partie de la maison aussi. Mais parce qu'il a une conscience aussi en qualité d'écologiste, il a cette écologie de la civilisation.
Politique sans conscience n'est que ruine du pays.
Mais c'est un peu ça. Et après, vous avez des politiciens qui sont parachutés chez nous, qui n'ont rien à faire ni de l'Occitan, ni de rien du tout, et qui sont là simplement pour leur avenir personnel ou professionnel. Et cela, nous ne les convaincrons pas. Mais en Occitanie, je crois qu'on a quand même pas mal travaillé, en tout cas dans l'ex-Midi-Pyrénées. Il y a aussi des mouvements qui sont puissants du côté de Montpellier, dans l'Aude et dans les Pyrénées-Orientales en ce qui concerne le catalan. Donc je ne suis pas du tout inquiet. Je crois au contraire que les nouvelles générations ont beaucoup moins leur propre honte. Vous savez, on appelle ça la vergogne en occitan, c'est-à-dire la honte que l'État français a réussi à nous distiller de parler notre propre langue. Donc ils l'ont moins, ils sont plus ouverts à la nouveauté. Et j'insiste, l'occitan, c'est ultramoderne.
Et nous en sommes convaincus, nous arrivons à la séquence littéraire, parce qu'on parle toujours de livres dans Cap et Cap, et vous avez fait le choix d'un livre, moi d'un autre, et le vôtre, c'est L'eau librée des Catoyes, c'est ça, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé.
L'eau librée des Catoyes.
Parce que je comprends, mais je ne parle pas de Claude Baudon.
De Jean Baudou. Jean Baudou, qui est un écrivain aveyronnais, et qui effectivement est un de nos grands monuments de la littérature occitane, moderne, puisqu'il est du XXe siècle. Et Jean Baudou a écrit ce livre qui est tout en double sens, comme faisaient les troubadours d'ailleurs. Hein. Il y avait le troubarclus, c'est-à-dire qu'il y avait vous lisez un poème, vous lisez un livre, en fait, le sens est caché. Et le livre de Catoye parle d'une vieille hérésie, on pourrait l'appeler comme ça, une hérésie à la religion catholique, qui faisait qu'un certain nombre de populations étaient surnommées les Catoye. Et c'était en fait des gens qui n'étaient pas tout à fait comme les autres, qui étaient mis à l'écart, qui étaient mis à l'index. Et tout cela symbolise bien sûr la lutte du mouvement occitan par rapport à la France en général.
Alors moi, je vais vous parler d'un autre livre qui n'a pas été écrit par un occitan, mais par un néerlandais. Mais il y en a ici, vous l'avez dit, ils ont même leurs enfants dans les calendrettes. Vous connaissez certainement cette formule qui a été détournée d'un adage fameux, « Si tu ne t'occupes pas de l'utopie, l'utopie s'occupera de toi ». Alors, pour s'y intéresser, pour se faire quoi de mieux que de lire le livre de cet Hollandais qui est paru au Seuil, Rutger Bregman, « Utopie réaliste ». Il a 29 ans, c'est un tout jeune homme, mais il s'est imposé très rapidement ce livre en tête des essais, en raison certainement de l'art du récit et aussi de la combinaison des savoirs. Il en a beaucoup, peut-être aussi un peu de son ton provocateur quand même. Alors selon certains, ce livre serait un pur Prozac de 250 pages, vous voyez. Ça agirait comme un antidépresseur, paraît-il. Il faut le lire, moi je l'ai parcouru, je n'ai pas encore terminé. Alors certes, il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, mais je suis certain qu'après l'avoir lu, je vous conseille vraiment de le lire, vous verrez le monde et surtout son avenir quand même avec un peu plus d'optimisme. Bon, j'aurais aimé parler un peu d'actualité, la réforme du Code du travail, puisque vous êtes avocat, allez très rapidement, un mot sur ces ordonnances Macron. Ça vous inspire quoi? Très rapidement.
Ça m'inspire qu'on veut nous empêcher de faire notre travail. Ça nous inspire qu'on a dénaturé complètement à la fois le Code du travail et même les principes généraux du droit, puisqu'on ne peut plus indemniser les préjudices tels qu'ils sont. Et donc à partir de là, bon, c'est une catastrophe en ce qui concerne notre conception, je pense qu'on la partage, à la fois des droits de la défense et même de l'équilibre du droit en général. Bon, je pense que les impératifs économiques ont primé sur les impératifs juridiques et légaux, donc c'est dommage. Mais c'est le sens du vent, je pense qu'il faut savoir plier pour ne pas rompre.
Merci Jean-François Lafont, vous aurez encore écouté des heures, mais bon, vous reviendrez, vous êtes ici chez vous, donc
ça tombe bien.
Voilà, vous ne venez pas de bien loin. Merci, c'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique Jean-Louis Arzac, que je remercie. La semaine prochaine, je recevrai Gilles Vincent. Alors, Gilles Vincent vient aussi d'Occitanie, on parlera d'écriture, c'est un écrivain qui vit de sa plume, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. On parlera de polar, on parlera de bien d'autres choses encore, vous verrez, c'est un garçon passionnant, un peu engagé. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Occitanie Première ainsi que sur le site de la station. Nous rediffuserons bien sûr cette émission. Je pense demain, je me tourne vers Jean-Louis Arzac à 12h et certainement ce week-end. Bonne semaine à toutes et à tous. Adeu.
Aliciat.